Allez, retour en studio à Castelnau-le-Lez pour cette deuxième session de la matinée. Comment protéger nos données et celles des mineurs? En direct avec nos intervenants, une partie sera en studio tout à l'heure et puis une partie à distance. Et pour présider et animer cette session, on l'a déjà eu avec nous sur les premières journées, Christian Agroum, le président de la SOCOA, ancien chef de l'OCLIC, l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Bonjour Christian Agroum, vous m'entendez?
Bonjour. Oui, je vous entends très bien, Lionel. Bonjour, bonjour à tous.
Tant.
Écoutez, merci de me passer, merci de me passer la main et puis merci à vous tous pour votre présence. Je commencerai par quelques félicitations d'abord adressées à Estelle Di Marco et à l'ensemble de son équipe. Lorsque cette idée de journée RGPD a été lancée il y a une bonne année maintenant, nul ne pouvait douter que le Covid arriverait, que la Covid arriverait. Nul ne pouvait s'imaginer que on passerait donc du monde physique au monde numérique, hein, en l'occurrence en parlant de problématiques numériques, comme il l'a été fait. Eh bien, là, on est à cheval entre des confinements le permettant, entre des transmissions numériques et puis des présences physiques, ce qui est très illustrateur du monde dont on va parler maintenant et de la manière dont on peut protéger ces données et celles des mineurs tout particulièrement. Alors, je vais commencer par une anecdote. Comme il vous l'a été dit, j'étais chef de l'OCLIC. L'OCLIC, c'est un service de police, hein, c'est un service qui relève de la direction centrale de la police judiciaire. Voilà, donc j'étais commissaire divisionnaire, chef de cet office central de lutte contre la cybercriminalité. Et donc, mais j'ai commencé ma carrière, moi, comme inspecteur de police à la brigade de protection des mineurs à Paris. Et donc, ça m'a permis en moins de 30 ans de voir comment un pédophile qui, dans les années 80, était obligé d'aller au chef-lieu de son département, au chef-lieu de sa région, voire à la capitale, pour récupérer du matériel pédopornographique, des images, des cassettes vidéo, à l'époque, hein, des cassettes VHS, ou des diapositives même. Comment ce pédophile s'est retrouvé face à un environnement qui a complètement explosé au milieu des années 90 avec l'arrivée de la téléphonie portable, et puis dès le début des années 2000 avec le boom de l'Internet, et combien avec un clic de souris on arrive maintenant à avoir accès à des données par millions, de l'ensemble de la planète, et comment cela facilite, certes, des échanges de manière très intelligente, hein, l'Internet c'est 95% de bonheur, mais comment nos mineurs, nos enfants sont également exposés à un monde qui était beaucoup plus distant il y a encore quelques années, et comme maintenant, à travers eh bien, une erreur d'orientation sur Internet ou une maladresse qu'on ne peut pas reprocher à des mineurs, ils peuvent se confronter donc à un vol de données ou à une prise en main et à une de leur conscience de manière à récupérer des informations. Alors, pour ce faire, on aura ce matin deux parties, une partie jusqu'à 11h35, puis une pause, et puis une deuxième en suivant. La première partie, donc celle qui me concerne tout à présent, me permet de vous présenter Madame Pascale Rollin-Serrier, qui nous présentera l'importance de la sensibilisation aux risques et aux bonnes pratiques et à l'exercice de ses droits. Alors je vais présenter donc les intervenants dès à présent. Ça nous évitera cet exercice difficile au fur et à mesure. C'est toujours difficile de présenter des gens qui sont des gens d'expérience, de responsabilité. Je les laisserai donc compléter leur présentation puisque on a affaire là à des experts. Madame Pascale Rollin-Serrier, elle est coordonnatrice des activités internationales en éducation au numérique, auprès de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, et elle est spécialisée au sein de cette Commission nationale informatique et liberté dans le développement de programmes en éducation numérique, axes stratégiques et institutions. Elle pilote un réseau de 70 régulateurs, on nous en parlera. Elle est également experte auprès du Conseil de l'Europe sur un programme d'éducation à la citoyenneté numérique. Dans un deuxième temps, nous parlerons de la sensibilisation des lycéens à la protection de leurs données personnelles avec un numéro à quatre mains, ou à deux voix plutôt, entre messieurs Stéphane Sfert et Jean-François Mangin. Alors, Stéphane Sfeire étant absent, il sera c'est Monsieur Sébastien Koenig qui prendra la qui prendra le plateau. Donc, Monsieur Sébastien Koenig, lui, est responsable projet Lordi de la région Occitanie, en charge de stratégie numérique, qui nous présentera l'ENT, l'environnement numérique de travail, celui qu'on installe dans les lycées, dans les collèges, la manière dont on l'installe, dont on peut, grâce à ce dispositif, aller plus loin dans la protection accordée à nos mineurs et dans l'éducation qu'on peut faire de ces jeunes gens. Et puis, Monsieur Mangin, lui, le DPO, le Data Protection Officer, le délégué en français à la protection des données de la région Occitanie, il a une grande expérience puisqu'il a passé une quinzaine d'années en tant que gestionnaire de projet de management chez Orange. Et puis, il a été directeur et directeur délégué des systèmes d'information de la région Languedoc-Roussillon, qui s'appelle depuis la région Occitanie. Donc, vous voyez que on a là aussi affaire à des gens d'expérience. Et puis, on abordera la protection des données personnelles avec les mineurs à travers cet aspect associatif. Vous savez que s'il est bien un domaine dans lequel le partenariat public-privé est indispensable, c'est le domaine de la cybersécurité, de la lutte contre la cybercriminalité et de la protection des données personnelles. Et on le fera donc avec Axel Dessin, qui est responsable éditorial et pédagogique de Tralalair, hein, c'est un créateur de ressources numériques jeunesse. Elle est opératrice également au sein de l'association Internet sans crainte. Alors, elle va vous présenter Internet sans crainte. C'est un programme et une association qui est une des trois lignes directrices du Safer Internet France, qui est un programme soutenu par la Commission européenne, membre du réseau InSafe. J'en dis pas plus, je les laisse dès à présent prendre en main le plateau et je confie donc ce plateau à Pascal Rollin-Serrier.
Merci Christian Agroum pour cette introduction et cette présentation de cette table ronde. Et donc effectivement, on part à distance pour cette première intervention avec Pascal Rollin-Serrier sur l'importance de la sensibilisation aux risques, aux bonnes pratiques et à l'exercice de ses droits. Bonjour Pascal Rollin-Serrier.
Bonjour, merci à notre modérateur. Enchanté de rencontrer aussi les autres panélistes, même si vous verrez l'éducation nationale aussi, nous travaillons beaucoup, beaucoup en partenariat, mais aussi le secteur privé, les acteurs associatifs, ONG. Donc voilà, notre pôle éducation numérique à la CNIL est quand même une entité assez récente de ces pas tout à fait 10 dernières années encore. C'est une volonté de notre autorité de créer un petit pôle éducation numérique, qui est bien sûr en connexion avec la communication, avec le service des plaintes de la CNIL, qui nous ramène aussi la réalité de terrain. Donc ça, c'est important pour nous amener à définir des priorités d'action, de travail, d'outils pédagogiques, de lisibilité, également avec le service des contrôles et ensuite, bien sûr, avec les juristes aussi du secteur éducatif. Voilà, donc cette entité n'est pas toujours connue, mais en revanche, vous verrez, nous sommes présents dans un certain nombre de salons, d'opérations. Et l'objet, en fait, de cette présentation, c'est de mettre en évidence les éléments dont nous disposons pour orienter nos axes d'action prioritaires à la CNIL sur l'aspect éducatif numérique et en même temps les appuis et les leviers sur lesquels nous nous appuyons, si je peux utiliser ce pléonasme, parce que la CNIL ne peut pas tout faire toute seule et au contraire, il y a des experts dans l'ensemble des secteurs. Je vais commencer par vous donner quelques chiffres qui font partie justement d'une enquête que nous avons menée avec un de nos partenaires du collectif Éducation numérique, dont je vous en entends peut-être tiendrai un petit peu plus tard, Génération numérique, qui a mené une enquête en 2019 encore sur les 11-18 ans et la protection de leurs données personnelles. Quelques éléments clés, hein, ces quelques statistiques peuvent être effectivement accessibles sur le site de l'association Génération numérique, sur le site de la CNIL également, et notre site à nous spécifique, il s'agit du site educnum.fr. La gestion des mots de passe, première statistique, la moitié des 11-18 ans, 48% précisément, préfèrent des mots de passe simples et courts. Voyez, donc on n'est pas forcément dans le format souhaité pour une sécurité des mots de passe. Un tiers des jeunes, 29 ans, a déjà communiqué son mot de passe à d'autres personnes. Nous sommes quand même sur des 11-18 ans. En ce qui concerne les réseaux sociaux, 64% des 11-18 ans utilisent leur vrai nom, leur vraie identité. Et 64% utilisent leur vraie photo sur leur profil. Parmi les dernières statistiques assez parlantes, 45% de ces 11-18 ans ont menti sur leur âge. Et les jeunes sur les réseaux sociaux, pour la moitié en tout cas, 49%, expriment parmi les craintes les principales la pire des choses qui puissent leur arriver sur Internet, c'est de se faire pirater son compte et de se faire voler ses données personnelles. Donc tout ça, ça nous donne quand même des indicateurs aussi pour travailler l'ensemble de nos outils pédagogiques. L'environnement numérique. Nous sommes effectivement, je vais peut-être récupérer les slides si on peut me les mettre à l'écran. Merci. Donc nous allons passer sur le slide suivant, qui concerne l'environnement et les enjeux pour les jeunes. Les technologies numériques, effectivement, sont facteurs de progrès et d'innovation, on en est conscient, bien sûr, la multiplication des facteurs, des capteurs, pardon, les solutions de stockage, la dématérialisation des services, les risques accrus par la divulgation des failles de sécurité, la commercialisation des données, le traçage, la géolocalisation, donc tous ces éléments font qu'effectivement, nous avons besoin d'apporter des moyens pour faire comprendre cet univers aux jeunes, leur permettre d'en maîtriser les codes, de garder le contrôle sur leurs données, surtout, bien sûr, s'ils veulent pouvoir se saisir de toutes les opportunités. Donc, c'est ce qui a guidé effectivement l'action de notre autorité de protection des données. Les enjeux, surtout, ils sont évoqués, brassés depuis 2 jours et sûrement encore d'ici ce soir, bien sûr. Nous pointons bien les risques qui concernent l'usurpation d'identité pour les jeunes, le cyberharcèlement, le piratage de leurs comptes, l'exploitation des données commerciales, l'atteinte à l'intimité de la vie privée, la divulgation d'informations confidentielles, et quand on devient plus adulte, le risque de la discrimination au recrutement. Donc tous ces éléments, en fait, nous ont amenés à nous concentrer sur des actions pédagogiques. Si on peut passer au slide suivant. La CNIL a une mission qui est bien, et le suivant encore, voilà, qui a été défini comme une priorité. Merci. Nous n'avons pas attendu, bien sûr, que le RGPD nous donne formellement une responsabilité qui est inscrite pour l'ensemble de toutes les autorités, de favoriser la sensibilisation du public, sa compréhension des risques, des règles également, des garanties et des droits relatifs au traitement, et de développer des activités spécifiquement destinées aux enfants qui font l'objet d'une protection particulière. Donc, notre positionnement comme une priorité stratégique de l'institution, ça suppose, et on va prendre le slide suivant, de développer des partenariats avec notamment le ministère de l'Éducation nationale, de s'appuyer sur des formations de formateurs. L'intérêt sera de démultiplier nos actions parce que nous ne pouvons pas être partout en France sur les territoires et malgré notre forte volonté, les leviers sont déjà en place et sont importants. Le levier du collectif et du CNUM, dont je vous dirai quelques mots, vous comprendrez justement l'intérêt de ces partenaires à structure non lucrative, la mutualisation de ressources et en même temps, bien sûr, l'échange d'expériences entre pays, même si c'est une de mes spécialités, c'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui, toujours est-il que l'ensemble de nos confrères, bien sûr, les autorités de protection des données au niveau mondial, ont structuré un groupe de travail que nous pilotons depuis plusieurs années et qui nous permettent à la fois d'échanger des bonnes pratiques, de mutualiser des ressources, de voir ce qui fonctionne bien selon les jeunes, selon les publics, qui a pris l'avance sur un sujet, comment font les pays nordiques, quels sont les besoins aussi avec les pays d'Afrique. Donc voilà, nous avons une façon de nous nourrir aussi et de nous enrichir à travers un sujet qui, lui, est particulièrement consensuel, si le droit ne l'est pas toujours, l'éducation numérique l'est en particulier. En ce qui concerne le partenariat avec le ministère, ce partenariat, il a été formalisé avec le ministère de l'Éducation nationale en 2016 sur les bonnes pratiques aux usages numériques, mais il est également, il est également renouvelé depuis 2018 pour s'élargir au RGPD et les initiatives que la CNIL met à disposition et réciproquement du ministère, ce sont des interventions dans les académies, la réalisation de parcours magistère à l'attention des chefs d'établissement qui a en projet d'être étendu également aux enseignants et au personnel éducatif. Nous sommes présents sur des salons de l'éducation, en particulier le salon Educatis, le salon national, qui nous permet d'avoir une grande proximité avec l'auditoire, enseignants, responsables pédagogiques, parents également, infirmières qui passent aussi pour récupérer un certain nombre d'outils pratiques. Donc vraiment une mobilisation qui nous conforte dans notre initiative. Je voudrais passer au slide suivant. Parmi quelques illustrations de nos travaux avec le ministère de l'Éducation nationale, ces trophées de classe sont déjà à leur troisième édition et ils nous permettent de faire passer un certain nombre de messages dans le cadre d'un projet qui est mené dans un projet de classe. Ce concours des trophées de classe choisit en général, puisque c'est la troisième édition, certaines thématiques. L'année 2019 a porté auprès du cycle 3 sur trois thématiques, savoir protéger ses données personnelles, maîtriser l'usage de ces données et devenir un citoyen à l'ère numérique. Et à partir de ces contenus, effectivement, nous avons eu de nombreuses restitutions. Les livrables étaient tout à fait libres de choisir des ressources, romans photos, des ressources infographies, des ressources diaporamas, des journaux vidéo. Je vais vous montrer sur le slide suivant les lauréats qui ont été retenus avec le ministère de l'Éducation nationale et d'autres partenaires comme le CLEMI, plus des partenaires médias. Et qui nous permettent en fait d'avoir des contenus qui ont été travaillés, réfléchis par les jeunes avec leurs enseignants, bien sûr, mais également par rapport à leur spontanéité, leur compréhension des risques. Le slide suivant va vous montrer, le premier a été une vidéo. Voilà, nous avons aussi des infographies, nous avons eu aussi également un livre numérique. Toutes ces ressources sont mises en ligne, bien sûr, à la fois sur notre site et du CNUM, mais également sur le site du ministère et du SCOL, prime abord, et permettent d'enrichir, en fait, les outils à disposition et ces outils mériteront d'être un peu creusés parce qu'ils ont inventé des quiz, des jeux, des histoires. Rien de mieux que l'appropriation des enjeux de protection de données par les jeunes pour les décrypter auprès de leurs pairs. Nous avons également, le slide suivant qui était également une très belle infographie, si vous pouvez la mettre à l'écran. Là où les jeunes sont allés rechercher des outils qui étaient disponibles, merci, sur le site de la CNIL déjà, qui étaient disponibles sous forme de vidéos, c'est quoi la protection des données, et qui ont été enrichis avec des questions, des enjeux, des cas pratiques. Donc ce mode de travail, en fait, nous a amené sur ces dernières années à constater un besoin qui était de créer un référentiel à la protection des données. Il y a des référentiels, bien sûr, le DigiComp, des référentiels de la culture numérique, des référentiels aussi du Conseil de l'Europe. Et avec nos collègues internationaux, nous avons constaté que finalement, c'était peut-être la meilleure approche. Donc, sur le slide suivant, je vais vous présenter effectivement ce référentiel de formation à la protection des données qui a été mis en œuvre déjà pour le cycle 3 avec le ministère. Il est travaillé dans les deux langues, il est aujourd'hui traduit en polonais, en albanais, en catalan, en plus des langues officielles. Pardon, merci. Ce référentiel, effectivement, il présente, sur le slide suivant, je vais rentrer dans quelques éléments de détails, il présente effectivement un nombre limité de compétences à mettre en œuvre, 9 compétences que je présenterai ensuite. Il a vocation à être intégré dans les programmes scolaires, quelle que soit la discipline. Il ne s'agit pas d'une nouvelle matière, mais de façon plutôt agile et en fonction des enseignants. Bien sûr, il a été adopté, donc je vous le disais, par l'ensemble de nos collègues. Le slide suivant va vous montrer quelques-uns des thèmes qui font partie des compétences clés que nous avons ensuite déclinées, bien sûr, pour les enseignants à l'attention des élèves. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Comment comprendre l'environnement au plan technique, au plan économique? Quels sont mes droits? Comment maîtriser mes données personnelles? Comment devenir un citoyen numérique? Donc, l'ensemble de ces compétences ont été sur le slide suivant déclinées et mis en ligne sur notre site EduCNUM et le site du ministère, sur lequel nous avons rajouté des mises en correspondance avec le socle d'éducation numérique. des matrices pour se repérer dans les référentiels nationaux, pour faire le lien avec notre référentiel, une grille de progressivité, ça va être l'objet du slide suivant, du par cycle scolaire, un accès à des ressources qui sont destinées au cycle 3, hein, bien sûr, parce que le contenu du référentiel entre les lycéens et les élèves du primaire, bien sûr, n'aura pas la même envergure et il y aura justement une progressivité. Des cas pratiques, comment mettre en scène, expliquer la protection des données, comment mettre en scène également les comportements, le bien-être en ligne également, mais aussi comment respecter les autres. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes en phase encore de continuer à le tester. Nous sommes demandeurs de retour sur l'utilisation de ce référentiel dans les classes pour pouvoir mieux cibler aussi les outils pédagogiques pour le cycle 4 et le cycle 2. Voilà, le slide suivant vous montre, c'est très rapidement, hein, illustre le tableau des progressivités, comment ont été mis en place les éléments clés de ce référentiel et accessible par cycle 2 ou 3 en ce qui concerne les compétences définies pour chaque niveau. Nous avons ensuite un autre mode de fonctionnement qui est aussi de s'appuyer, je le disais en présentation, sur des formations de formateurs. Les formations de formateurs nous permettent de démultiplier les messages, c'est l'objet du slide suivant. Les têtes de réseau, en quelque sorte, c'est un petit peu notre désignation, qui sont notamment les jeunes ambassadeurs des droits de l'enfant auprès des JAD, auprès du défenseur des droits, qui nous permettent de les former et eux-mêmes ont, dans le cadre de leur service civique, ont des missions de terrain auprès des établissements, des écoles, des hôpitaux également, des enfants des enfants qui sont hospitalisés. Et nous arrivons à toucher par cet intermédiaire, en général, 50 000 personnes par an et 50 000 jeunes avec leurs formateurs et leurs enseignants. Donc, c'est déjà aussi des outils que nous mettons à disposition et qui sont relayés. Ils acquittent formidablement de leur travail auprès des jeunes. Rien de mieux que des jeunes qui parlent aux jeunes aussi. Hein. Donc là, on en est tout à fait conscient à la CNIL. Alors, nous avons eu d'autres initiatives avec aussi e-Enfance, qui est le défenseur des droits. Nous formons aussi cet opérateur national. On reste, merci, sur ce slide. Qui est l'opérateur, bien sûr, de la ligne net écoute en cas de cyberharcèlement. Et là aussi, nous approfondissons avec eux en fonction des besoins, les mécanismes de plainte, les objets connectés qui font partie aussi des échanges qu'on peut avoir avec les jeunes. Et alors, nous avons une initiative originale qui, en tout cas, qui fonctionne déjà depuis plusieurs années, que nos collègues étrangers trouvent intéressante, ce sont de former également les community managers des clubs de football. Donc, nous ne formons pas les jeunes dans les centres professionnels de football, mais nous nous sommes inscrits à la demande de la Fondation du football avec un module de formation spécifique pour travailler la sensibilisation à l'utilisation des réseaux. Dans ces centres de formation, les jeunes entre 13 et 17 ans, ils auront de toute façon, on va dire, les 10%, on nous dit, émergeront parmi les grands acteurs du football, mais ils sont en prise justement avec un certain nombre de difficultés qui concernent leur réputation en ligne, la réaction, les provocations. Donc là aussi, on essaye de leur donner des outils et des exemples illustratifs dans leur secteur. Mais ce qu'on fait pour le football est applicable dans d'autres secteurs sportifs aussi, d'autres secteurs d'application de la société. Voilà. Et nous avons créé, sur le slide suivant vous en montrera toute la dimension, un collectif d'éducation numérique, un collectif qui est donc composé aujourd'hui de 70 acteurs, nous étions une vingtaine au démarrage en 2013, et ces acteurs sont des représentants du monde de l'éducation, de la société civile, de l'économie numérique, nous avons des fondations, la fondation Maïf, la fondation MGEN, voyez l'ensemble des logos, les représentants des parents d'élèves, le CLEMI, voilà, tout un ensemble de leviers qui nous facilite la démultiplication et tous sont des professionnels de l'éducation. Donc, chacun a son environnement, que ce soit la NLCI, aussi auprès de la lutte contre l'illettrisme, que ce soit auprès de la petite enfance également, parce que il y a aussi des messages à faire passer de plus en plus tôt. Donc voilà, ce collectif que nous pilotons, que nous animons, a développé un certain nombre d'outils. Sans moyens budgétaires particuliers, chacun met en fonction de ses disponibilités, en fonction des actions que l'on veut réaliser. Nous avons alors sur le slide suivant, je vais vous donner une illustration d'initiatives récentes que nous avons pu produire ensemble, soit effectivement des priorités à désigner en 2017 auprès des candidats à l'élection présidentielle. D'ailleurs, certaines idées ont été retenues depuis sous forme de groupes de travail parce qu'elles ont elles correspondent à une réelle nécessité et à un réel besoin. Un numérique inclusif également, qui fait partie des messages que nous pouvons faire passer auprès des pouvoirs publics, et concrètement des événements sur la citoyenneté numérique. Le slide
Pascal,
suivant va vous montrer avant de... Oui,
nous oui, sommes je vais, presque je vais à la devoir fin. Vous demander de conclure, effectivement,
ouais,
parce qu'on a beaucoup d'intervenants bien. Aujourd'hui. Merci beaucoup.
Bien sûr, merci à vous. Donc, sur le slide suivant, voilà, nous sommes effectivement sur ce site EduCNUM que nous avons, que nous pilotons et qui est enrichi avec l'actualité de l'ensemble de nos partenaires et des ressources qui sont classées sous les 6 grandes thématiques qui vous apparaissent à l'écran. Et ce site commence à être quand même de plus en plus connu et voilà, nous permet aussi de ne pas... être présent uniquement sur le site de la CNIL, mais d'avoir un outil pédagogique. Le slide suivant vous donne des illustrations des ressources que nous avons mis en ligne, qui sont accessibles, que l'on peut nous commander, que l'on peut télécharger également, des posters. Le suivant va vous montrer des vidéos, parce que là aussi, bien sûr, il faut rentrer quand même dans le mode de fonctionnement des jeunes, donc des vidéos de blogueurs réalisées à l'intention des enfants, la vidéo du YouTuber Le Rire Jaune qui a fait plus de 7 millions de visiteurs aujourd'hui, qui est séquencée par thème et qui permet souvent d'aborder la thématique avec les jeunes en classe et pour les éducateurs également, et traiter et engager la discussion avec les enfants. Le dernier slide, ou l'avant-dernier, pardon, voilà, qui vous donne un exemple d'initiative que nous avons menée. Chacun doit se réinventer, c'est très à la mode, mais bon, il est évident que mener des actions aussi auprès des familles, ça a été une de nos initiatives l'année dernière, avec l'ensemble de ses partenaires, qui nous a permis de nous rapprocher à l'occasion des journées du patrimoine, de faire une séquence pour les élèves le vendredi et vers les familles les jours suivants avec un escape game qui va sortir en application à disposition du grand public, à disposition de l'éducation nationale aussi, qui est très intéressée, et de toucher concrètement des situations que les parents rencontrent avec leurs enfants. Et j'allais dire, le dernier slide vous apportera quelques orientations, mais je ne peux pas encore vous donner le contenu des résultats de nos travaux. Nous avons engagé une grande réflexion sur les conditions d'exercice des droits des mineurs vis-à-vis de leurs données personnelles. Et nous avons déjà lancé un sondage en ligne auprès des jeunes, nous en gardons encore la primeur. Une consultation publique qui vient de se terminer, nous exploitons toutes les contributions qui nous apportent des informations sur ce que souhaitent les parents, ce que souhaitent les éducateurs, ce qu'ont pu exprimer aussi les acteurs du secteur privé. Le benchmark également auprès de nos collègues nationaux un petit peu sur les mêmes problématiques. Et l'objectif est de concrétiser des messages d'information à l'attention des enfants, comment exercer leurs droits, à l'attention des parents, s'ils doivent accompagner leurs enfants dans telle ou telle situation, sur notre site, c'est à la fois EduCNUM et CNIL.fr, qui sera disponible d'ici la fin de l'année 2020. Merci en tout cas de votre attention et votre intérêt, et bien sûr, je reste joignable pour toutes questions et ultérieurement.
Merci beaucoup Pascal Rollin-Serrier de la CNIL. Effectivement, vous pouvez continuer à interpeller nos intervenants sur le chat en envoyant vos commentaires ou vos questions. On en prendra quelques-unes à la fin de cette table ronde. Peut-être un retour avec Christian Agroum. Je ne sais pas si vous voulez intervenir avant qu'on revienne en studio pour laisser la place à nos experts de la région Occitanie. Christian ?
Oui, tout à fait. Merci. Merci à Pascal, surtout de cette présentation très dynamique qui dépoussière l'image qu'on peut avoir de la CNIL. Hein. On a souvent l'image de la CNIL d'une institution d'interdit qui, et puis maintenant avec le RGPD, on craint la CNIL parce qu'elle délivre des amendes. Voilà que la CNIL est aussi un creuset de, on n'en doutait pas, d'intelligence, mais de recherche, qui s'adresse à toute forme de public, à la fois à l'État, à la fois aux administrations, mais aux entreprises, mais également aux particuliers, et là directement à la jeunesse. C'est passionnant. Et c'est passionnant aussi de faire cette transition avec la région Occitanie, en l'occurrence, pour voir comment la sensibilisation des lycéens à la protection des données personnelles est opérée là au niveau régional puis au niveau local.
Merci beaucoup Christian Agroum. Donc on est en direct sur le plateau avec Jean-François Mangin, délégué à la protection des données qui de la région Occitanie, qui est intervenu lors de la première journée jeudi, et donc avec nous ce matin en studio. Bonjour Jean-François Mangin.
Oui, bonjour. Enchanté encore de pouvoir intervenir. Et l'objectif ce matin, c'est vraiment de rappeler l'engagement de la région pour protéger les données personnelles des lycéens. Et donc, on mène de nombreuses initiatives dans ce domaine, hein, de par nos compétences de gestion et d'accompagnement des lycéens. Et donc, ce que l'on voulait ce matin, c'est faire un petit point sur à la fois les espaces numériques de travail que l'on met à disposition de la communauté éducative. Ensuite, on parlera également des échanges de données que l'on fait avec le rectorat. Et le rectorat n'a pas attendu le RGPD justement pour quelque part sécuriser le partage de données. Et ensuite, on parlera également de la carte jeune, qui est une grande initiative de la région Occitanie. Donc peut-être tout d'abord, on va vous parler un petit peu de ce qu'est l'espace numérique de travail à la région Occitanie. Et donc, Sébastien, si tu veux nous dire quelques mots
Oui, bonjour.
dessus.
Ben, effectivement, donc je travaille au sein de l'éducation, de la direction d'éducation numérique de la région, plus précisément au service stratégie numérique. Effectivement, la protection des données, donc c'est un sujet qui est très important sur l'ensemble de nos missions et donc l'ensemble des services qu'on peut fournir auprès des lycéens. Et un des services, effectivement, est l'ENT, donc l'espace numérique de travail. Donc l'espace numérique de travail, en fait, c'est un site, un portail de services en ligne, en fait, qui regroupe un ensemble de services et qui est à la disponibilité donc des élèves, des enseignants, des parents et du personnel des établissements. Pour vous expliquer un petit peu, l'ENT, donc c'est un espace donc numérique de travail qui propose un ensemble de services, donc des services pédagogiques comme des cahiers textes, des classeurs pédagogiques, des services de vie scolaire où on peut voir l'emploi du temps des différents élèves, la gestion des absences, des notes et des évaluations. Surtout, il y a un service personnel en fait au lycéen, donc là où on essaye quand même de valoriser le maximum avec un espace de stockage qui leur est réservé, un agenda personnel voilà, des outils comme une messagerie. Il y a des sujets de travail collaboratif, effectivement, comme des blogs, des agendas partagés, la réservation de ressources. Et il y a tout un ensemble aussi de publications et de communications qui est faite justement et de sensibilisation aussi sur la protection des données. Pour vous donner quelques chiffres, l'ENT, c'est quand même plus d'un million de comptes donc, qui est créé, qui est géré par notre prestataire. Ça représente environ 600 établissements au sein de l'Occitanie, lycées et collèges. Et effectivement, c'est un service qui était utilisé de manière plutôt poussive jusqu'à maintenant, mais qui était quand même beaucoup plus utilisé. Mais voilà, les derniers événements ont fait qu'en fait, on vous en parlera un peu plus tard. Effectivement, la connexion et l'utilisation de cet espace a été multipliée par 4 lors du confinement, et ce qui a généré effectivement énormément de connexions, jusqu'à plus de 500 000, des pics de plus de 500 000 connexions sur l'ensemble de l'Occitanie.
Alors, ce qui est important à expliquer, c'est que c'est cet outil, donc toutes les fonctionnalités, enfin les fonctionnalités globales viennent d'être décrites. Après, ce qui est important à appréhender, c'est que pour nous, c'est un outil qui est extrêmement cadré. C'est-à-dire qu'en fait, un ENT pour nous, Région Occitanie, c'est pas nous qui pouvons imaginer à foison ce qu'il va comporter. C'est extrêmement cadré. Hein, donc on répond en fait à des recommandations, à des obligations qui sont fixées par le ministère de l'Éducation nationale pour que ces espaces voilà, répondent aux exigences du ministère. Et en fait, globalement, s'il y a un mot, et ça, tout ça date aussi d'avant le RGPD, c'est pour ça que c'est important des fois de comprendre que le RGPD, certes, fixe énormément de choses, mais heureusement, beaucoup de domaines avaient déjà tous les réflexes qui sont aujourd'hui obligatoires avec le RGPD. Et donc, un des grands principes de ce cahier des charges des ENT, le cahier des charges qui sont imposés aux collectivités qui les mettent en œuvre, c'est que ça repose sur un cadre de confiance. Et c'est vraiment ça, je crois, le mot-clé pour l'espace numérique de travail, c'est un cadre de confiance. Alors, on va dire qu'est-ce que c'est? Le cadre de confiance, ce ne sont pas que des règlements, que des obligations techniques, que des recommandations sur la mise en œuvre, la taille des mots de passe, etc. Certes, tout ça existe. Par contre, ce qui est vraiment très important, c'est que ça repose également, et vraiment dans la région Occitanie, on y a été extrêmement sensible, sur tout ce qui est souveraineté. Tout à l'heure, Estelle parlait des outils en disant que parfois, voilà, les jeunes vont déposer des données à caractère personnel sur des outils, ils n'ont aucune idée où sont ces données, ils n'ont aucune idée de la réglementation qui va régir tout ça en cas de problème. L'énorme avantage, c'est qu'avec l'ENT de la région Occitanie, on sait que les données restent en France, elles vont être gérées par le RGPD et tous les outils derrière, on les maîtrise à 100%. Donc il y a vraiment le principe de souveraineté. Donc c'est bien parce que du coup, avec les ENT, la France peut dire on est souverain au niveau de nos espaces numériques de travail, ce qui est loin d'être le cas sur beaucoup d'autres services où on s'aperçoit bien, sur les messageries, on n'a aucune souveraineté, sur plein d'autres services, on n'a aucune souveraineté, ne parlons pas des réseaux sociaux, etc. Ben, au moins, dans le domaine de l'éducation, il y a une grande vigilance et en région Occitanie, on travaille vraiment uniquement avec des boîtes françaises et on sait qu'on en maîtrise, on maîtrise 100% des traitements. Et c'est vrai que parfois, l'usage des ENT, les gens disaient est-ce que c'est vraiment utile, etc. Pendant la crise du Covid, Sébastien, tu nous l'as indiqué, l'usage a été décuplé, multiplié par 4. C'est ça.
On comptait environ 120 000 connexions quotidiennes par jour de manière générale. Et pendant donc la crise, à partir du 16 mars, on avait des pics vraiment régulière à plus de 500 000 connexions. Donc ça a été un petit peu difficile au début. La région Occitanie a mis des moyens avec d'autres régions, parce qu'effectivement cette solution est déployée dans d'autres régions, pour apporter et appuyer notre prestataire afin de mettre